Le Salon de la copropriété et de l'habitat, les 8 et 9 novembre 2023, à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Axéo et Drieux Combaluzier sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce Salon de la copropriété et de l'habitat ici en direct, Porte de Versailles, à Paris, 8 et 9 novembre. On est ravis d'accueillir une table ronde avec des invités prestigieux ce début d'après-midi. Olivier Safar, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Président de l'INIS Île-de-France et du Grand Paris, bienvenue à vous.
Merci.
À vos côtés, Anne Coquier, bonjour Anne.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'Union des syndicats des grandes propriétés. Des grandes copropriétés, vous allez nous dire ce que c'est dans un instant. Et Bertrand Perroux, bonjour Bertrand.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous les auditeurs de Radio Immo.
Oui, et ils sont nombreux,
de plus en plus nombreux
en tout cas.
On les salue.
Président de Drieux Combaluzier. Ça, c'est les ascenseurs.
Les ascenseurs de Drieux Combaluzier.
On va voir ça tout de suite. Messieurs, dames, on va bien sûr s'interroger sur la rénovation dans les copropriétés. C'est vrai que c'est le sujet du moment. En tout cas, l'État a pris la mesure et avec beaucoup d'ambition, mais beaucoup d'agents sur la table. On va voir si effectivement ce pari de la rénovation pour les copropriétés, il est bien engagé. Est-ce qu'il peut être gagné? Mais tout d'abord, Anne, je vous laisse la parole pour démarrer avec l'Union donc des syndicats des grandes copropriétés. Qu'est-ce que ça représente exactement?
Alors c'est une association qui regroupe des copropriétés de plus de 100 lots.
Oui.
C'est une association qui existe depuis 1991. Nous avons actuellement plus de 40 copropriétés adhérentes et des partenaires qui viennent nous porter la bonne parole sur ce que l'on peut faire en copropriété.
Bien sûr.
Et c'est Paris, région parisienne.
Essentiellement.
Pas essentiellement. Nous avons des copropriétés en province, mais peu. Plus peu. Paris, région parisienne, bah puisque
oui.
C'est né de...
Grands ensembles, parce qu'il y a des problématiques un petit peu différentes, là, sur quand on a ces grandes copropriétés.
Bah oui, elles sont, c'est différent d'une copropriété de 5 lots. Hein. Pour se réunir, c'est un peu plus compliqué. Voilà.
Ouais.
C'est ça.
Et on peut imaginer les difficultés qu'il y a eu, par exemple, lors de la crise sanitaire. Mais bon, on est passé par là, on s'est adapté.
Si avec ça, ça se fait ça.
Si avec ça.
Olivier Safar, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle... elle a servi aussi cette crise finalement, parce que vous êtes beaucoup digitalisé. La profession voilà, qui avait un petit peu de mal avec peut-être les nouvelles technologies s'y est mis un petit peu à marche forcée. Et puis, est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Comment ça se passe?
Alors, au niveau de digitalisation, oui, ça a accéléré certains de nos confrères qui étaient effectivement un peu reluctants à faire les choses et à faire avancer. Certains d'autres étaient très volontaires, avaient déjà mis en place les systèmes. Je ne vous cache pas que faire des réunions en visio, on le faisait déjà, nous, au cabinet Safar, ce n'était pas nouveau. En revanche, des assemblées générales en visio, on n'en avait jamais faites. Pourquoi? Parce que prendre les votes en même temps, alors que une réunion de conseil syndical, où on a 5, 6, 8, 10 copropriétaires en même temps, plutôt facile à gérer, et on gérait habituellement quand on en avait besoin. Là, effectivement, on est passé à un niveau supérieur et tous nos confrères ont suivi, ont fait des choses, ont adapté, ont mis en place et je tiens à les féliciter parce que c'est quand même une adaptation qui a été faite à marche forcée pour certains et puis d'autres un peu plus facilement.
Mais bien réalisé, puis on voit le dynamisme sur ce salon de la copropriété avec beaucoup de propositions aussi de valeur. Mais ce qu'on voit un petit peu plus, effectivement, c'est en ce moment la rénovation. On va l'aborder dans quelques instants. On termine le tour de table avec Bertrand Perroux, Drieux Combaluzier. On rappelle que l'ascenseur, c'est le moyen de locomotion le plus utilisé, la
Exactement.
Mobilité.
Oui, c'est le moyen le plus utilisé tous les jours. Tous les Français, ou une grande majorité des Français, prennent l'ascenseur matin, midi et soir. Donc ça en fait le premier moyen de transport. Et je me plais aussi à le rappeler, le moyen de transport le plus sécurisé. C'est finalement qu'on rapporte le nombre de voyageurs au nombre de transports sur l'ensemble des moyens de transport. C'est l'ascenseur, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé en matière de transport.
Ouais, sauf qu'on ne peut pas aller partout avec l'ascenseur non plus. Hein.
Moi je dis qu'avec l'ascenseur, on monte assez rapidement au 7e ciel, donc c'est déjà énorme.
Ah, c'est une belle expression. Tiens, on fait le lien avec l'innovation. Alors vous allez traverser la rue, j'allais dire, puisqu'on est ici à la Porte de Versailles, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a plusieurs salons en même temps. Il y a le salon des nouvelles technologies dans l'immobilier, le RENT à quelques pas. Vous allez présenter, Bertrand Perroux, une innovation également concernant l'ascenseur.
Exactement. Demain, on présentera dans le cadre du RENT, donc la Solorent que vous évoquez, une innovation exclusive de Drieux Combaluzier qui s'appelle Camille. Et Camille, c'est un écran digital. C'est un écran qui permet de faire beaucoup de choses. Alors je vais faire un peu de teasing parce que
oui,
je vais le dire demain.
On a une émission
dédiée. Je ne vais pas tout dédier, mais c'est beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses, beaucoup d'attentes aussi par rapport au monde de l'immobilier et notamment les administrateurs de biens et les syndics ont beaucoup d'attentes. Et Camille permet de répondre en grande partie à beaucoup d'attentes des gestionnaires de copropriété qui travaillent sur beaucoup de dossiers en permanence. Voilà. Et donc on va les aider de façon très humble. Mais en tout cas, on veut apporter notre pierre à l'édifice pour aider nos clients, gestionnaires, syndics des copropriétés.
Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent, merci. Retrouvez le podcast de Bertrand Perrault sur effectivement ces innovations dans l'ascenseur. Je me tourne vers effectivement les syndics de copropriété. J'ai envie de vous demander quel est le sujet du moment. Alors, on parle beaucoup rénovation. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous préoccupent en cette fin d'année 2023? Anne, on démarre.
Alors, je ne suis pas syndic de copropriété, uniquement.
Non, mais vous avez des retours quand même des.
Je ne voudrais pas prendre la place de.
Non, mais il n'y a pas de problème, Anne.
Oui, bien sûr que c'est un sujet qui nous préoccupe non seulement cette fin d'année, mais depuis le début de l'année, voire de l'année précédente, parce que c'est le grand sujet du moment. Il faut qu'on y passe, il faut qu'on y arrive. On a embarqué beaucoup de nos copropriétés et de nos copropriétaires, mais après, ce sont les moyens.
C'est quoi les points de blocage, justement? C'est les moyens aujourd'hui, ça bloque?
Les moyens financiers, bien évidemment, les aides. Enfin, bon, on en a beaucoup parlé ensemble, mais nos copropriétaires sont un petit peu perdus au milieu de tout ça.
On a l'impression, dites-moi si je me trompe, que le pourquoi il est compris aujourd'hui, pourquoi il faut faire les choses, l'avalanche réglementaire qu'il y a eu, mais pas que, tout le monde prend la mesure quand même qu'il faut qu'on réalise cette transition. C'est plutôt le comment aujourd'hui qui bloque un petit peu.
On sent
que certains syndics sont un peu démunis par rapport à la masse d'informations qu'il faut ingurgiter, ou peut-être le maquis des aides, comment on fait, par où on démarre, comment on suit le projet.
Absolument.
C'est
d'arriver à en plus ces aides qui changent constamment, et quand on fait un projet en copropriété, ça passe en assemblée générale, il y a du temps, il y a un temps qui est plus long que le changement des aides, donc on est un petit peu souvent bousculé.
Ouais. Il faudrait plus de stabilité sur le projet, sur la fiscalité,
sur des points.
Les portefeuilles des copropriétaires ne sont pas extensibles, donc il y a un moment où ça bute. Quoi. On ne peut pas augmenter les charges.
Surtout qu'il y a eu le coup de rabot déjà avec l'augmentation des charges énergétiques.
L'augmentation des énergies. Qui tente à se calmer, je crois, heureusement. Mais bon, voilà.
Olivier, pas d'accord, je le précise pour ceux qui nous écoutent en radio, il dodeline de la tête avec une petite moue, l'énergie. Non. Alors où on en est?
Le problème de l'énergie, c'est qu'on a un bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement, on le remercie. C'était mis en place pour le gaz, puis l'électricité. Au départ, ils avaient oublié les copropriétés. On leur a rappelé gentiment qu'il ne fallait pas les oublier. Au départ, on a eu une levée de bouclier violente de certains. Finalement, ça s'est fait. On les remercie. C'est en place jusqu'au 31 décembre de cette année. Nous ne savons pas si ça sera prorogé pour 2024 et 2025 aujourd'hui. C'est une de nos grandes. Aujourd'hui, on est entre 65 et 80, suivant les fourchettes que l'on a.
Alors,
on est monté
pas de
on est monté à 180 ou 200, hein, je rappelle.
On est monté à 300.
À 300 pour certains. Donc, globalement, ça s'est envolé. Aujourd'hui, on est revenu plus bas, mais on est quand même du double ou du triple de ce que l'on payait en 2018-2019. Donc, attention, ça choque quand même. Et on aura peut-être quand même une augmentation des charges s'il n'y a pas de bouclier tarifaire.
Ce qui est compliqué, pour rebondir sur ce que dit Olivier Safar et Anne Coquet, ce qui est effectivement très compliqué, c'est cet environnement à géométrie variable en permanence. Olivier évoquait l'aspect fiscal, les aides gouvernementales étaient évoquées par Anne. Et en fait, on est dans un environnement en constante évolution. Et comme tous nos copropriétaires le savent, effectivement, la décision d'Assemblée Générale, c'est un processus qui est long. On parle d'une année d'Assemblée Générale, etc. Et ça vient se confronter. Une année quand tout va bien.
Je vais répondre très clairement. Voilà. Quand vous êtes sur des gros projets, c'est entre 3 et 4 ans.
Voilà, 3 et 4 ans.
Ne rêvons pas. Vous avez engagé une rénovation énergétique parce que vous vous êtes rendu compte. Aujourd'hui, je pense qu'on a expliqué les choses, on a donné des informations. Les copropriétaires, les conseillers syndicaux aujourd'hui sont au courant, sont conscients de l'obsolescence de leurs immeubles, de la valorisation qu'ils doivent faire par amélioration de la rénovation énergétique. Et c'est une valorisation, il faut le rappeler. La seule chose, c'est que ça ne se fait pas en 3 minutes. C'est d'abord de trouver un conseil syndical volontaire, un syndic qui connaît les choses, d'expliquer tout ça à des copropriétaires en ayant une équipe, un architecte, un AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage, d'avoir de l'autre côté un bureau d'études thermiques, parce que la plupart du temps, il en faut un. Vous allez vous retrouver avec un ingénieur financier pour monter les dossiers, parce que c'est très compliqué. Et là-dessus, bien évidemment, un bureau de contrôle à la fin pour vérifier qu'on est bien arrivé au résultat. Donc, on se retrouve à chaque fois avec des équipes complètes qui doivent travailler là-dessus. Et organiser une équipe, faire avancer sur un projet, il faut que le projet soit aussi architectural et qu'il valorise l'immeuble.
Bien sûr.
Si vous faites des travaux qu'on ne voit pas, les compétiteurs ne le verront pas et ne voudront pas le voter.
Le ouais, chef d'orchestre.
Il y a vraiment la perception, je rejoins Olivier, la perception de la valeur ajoutée pour les copropriétaires, c'est fondamental. On le voit pour les projets de rénovation, on le voit pour les ascenseurs, c'est exactement la même problématique. Si on rénove un ascenseur et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée perçue, ben en fait le projet ne
comment
passera jamais.
Comment
on fait,
tiens, ça passe par quoi la valeur ajoutée perçue quand on rénove l'ascenseur?
Alors,
un écran.
Pour les copropriétaires,
un écran digital.
Par un écran qui s'appelle Camille.
Il n'y a pas que ça. Y a pas que ça.
Non, en fait, pour les copropriétaires, le plus simple finalement et le plus accessible, c'est finalement l'aspect esthétique de la cabine, notamment avec le fait que quand je rentre dans une cabine tous les jours, si je rentre dans une cabine qui est design, qui est belle, qui répond à des codes architecturaux type haussmannien, art déco, nouvelle régence en fonction de l'aspect de l'historique finalement du bâtiment dans lequel se trouve l'ascenseur, en fait ça participe à un beau voyage dans l'ascenseur. Et donc ça c'est de la valeur perçue par les copropriétaires. La deuxième valeur perçue, elle est beaucoup plus monétaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met un ascenseur dans un immeuble qui n'en bénéficiait pas au préalable, ça fait bien forcément sûr monter la valeur du prix de l'immobilier, et notamment les étages qui se trouvent à partir du second, troisième, et naturellement plus on va au plus ça prend de la hauteur, plus ça prend de la valeur. Il y a un vrai effet levier financier pour finalement un investissement qui n'est pas si énorme que ça.
Est-ce voilà que vous mettez des miroirs à main 600 pour flatter ceux qui...
Alors si ils mettent surtout des miroirs pour que ces dames puissent se repasser
je crois que tout le monde se regarde.
Mais ce qui va changer la donne, c'est que demain, nos copropriétaires, plutôt que de regarder le miroir, vont regarder l'écran Camille. Ouais, et ça, c'est une nouveauté.
On est déjà très connectés.
Bon,
vous allez nous en rajouter. Donc, stabilité, on l'entend bien. Je voulais juste poser une question dans tous les corps finalement de métier que vous avez cités. Ça veut dire que le syndic aujourd'hui, il se pose en super chef de projet de cette petite équipe.
D'orchestre. Ouais. Il est en chef d'orchestre et aujourd'hui il doit comprendre ce que fait chacun des intervenants pour pouvoir l'expliquer au conseil syndical et aux copropriétaires.
Mais alors,
pour leur dire, c'est normal.
Ça demande une expertise aussi de votre part, c'est-à-dire aujourd'hui de se former, de s'informer, de se former. Et on voit, et on le disait à l'instant, comme c'est en plus une matière mouvante, c'est-à-dire qu'on vous dit quelque chose qui peut-être n'est pas la réalité, ou on vous donne une super couche
complémentaire.
Il faut être juste un petit peu.
Que les choses soient claires, chez nous à l'UNIS, on forme tous nos gestionnaires. Oui. Les formations sur la rénovation énergétique, par exemple, cette année, elles étaient gratuites pour tous les adhérents. Donc je ne vais pas vous dire autre chose. Et ce n'est pas une demi-heure de formation. C'est 2 à 3 jours de formation en fonction du niveau des gestionnaires. Et vous dire que c'est obligatoire, oui. Que c'est nécessaire, oui. Mais que c'est surtout une valeur ajoutée que va donner le syndic à ses immeubles. Il va pouvoir accompagner les copropriétaires dans le bon sens, leur expliquer les points importants. Pourquoi il faut un architecte? Pourquoi il faut un AMO? Pourquoi il faut un ingénieur financier?
Un contrôleur.
S'il n'est pas capable de comprendre comment ça marche, il n'est pas capable de l'expliquer et d'emmener tous les copropriétaires vers une valorisation de leur immeuble. Et ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est de faire comprendre à nos copropriétaires que ce n'est pas que pour dépenser de l'argent. C'est valoriser leur immeuble d'un côté, mais c'est aussi améliorer leur confort. Confort d'hiver, quand on améliore par une rénovation énergétique en doublant la façade, en changeant les fenêtres de simple vitrage en double vitrage, en modifiant la ventilation, en modifiant l'épaisseur de la toiture, quand c'est une étanchéité, vous mettez une partie thermique complémentaire, en modifiant le système de chauffage. Tout ça, c'est des améliorations. Mais ce sont aussi des améliorations de confort d'été, parce qu'aujourd'hui, on a une demande encore plus importante sur les difficultés d'été.
On connaît tous les passoires thermiques, mais on a aussi la notion de bouilloire thermique qui vient
maintenant
d'apparaître.
Qui est dans le nouveau projet de texte applicable pour le 1er janvier 2024.
C'est trop chaud l'été.
C'est le bouilloire thermique, c'est nouveau texte, et on aura le droit à des aides spécifiques pour ces bouilloires thermiques, alors qu'avant, on avait des aides que pour les passoires thermiques. C'est un complément. C'est un plus. C'est ce chose qu'on a demandé. Et c'est notamment dans certains immeubles où il n'y avait pas de volet ou pas de persienne, la possibilité, quand on fait des fenêtres à double vitrage, de rajouter un volet. Rajouter un volet roulant, dans certains cas, permet, si vous êtes face au soleil, façade sud ou façade ouest, de pouvoir descendre vos volets, même en les ouvrant, pour que l'air puisse passer et que vous n'ayez pas le soleil qui tape plein sur les fenêtres et qui chauffent encore plus l'appartement.
Ouais, et ça, ce sont des points importants. Aussi, hein, pour ceux
qui les store ban complémentaires quand c'est possible. Donc on se retrouve avec ces points en complément qui viennent effectivement améliorer le confort de vie de tous.
Bien sûr, avec des solutions de bon sens finalement qu'utilisaient nos anciens. Anne Coquet, une question justement, quand on entend toutes les problématiques de la copropriété, on se dit pour les grandes copropriétés, c'est multiplié par 10, par 20, par 50, par 100.
C'est le même par appartement et puis par les deux, j'en parle. Excusez-moi, parce que je suis présidente du conseil syndical de cette résidence qui fait 7500 lots.
7500 lots, voilà. Ça se trouve où?
Au Chênay, à côté de Versailles.
Okay.
Donc effectivement, c'est 7500 appartements. Donc c'est multiplié par 7500, mais la problématique est la même que sur un seul appartement.
Et alors, là,
après, on a des économies d'échelle, bien sûr, lorsqu'on discute avec nos partenaires, mais bon, c'est différent.
Olivier nous disait aussi, effectivement, intérêt, voilà, il faut que ça soit beau, il faut qu'on ait une qualité perçue. Mmh. Il faut aussi que, évidemment, on parle beaucoup de valeurs vertes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi le fait que votre bien, il ne va pas se dégrader aussi financièrement dans le temps, parce que justement, ce n'est pas ni une passoire thermique, ni une bouilloire.
Valorisation.
Est-ce que les clients, enfin les habitants, les propriétaires sont sensibles
Ils sont sensibles, sauf qu'effectivement, il y a un turn dans les appartements, dans les immeubles. Il y a des déménagements, voilà. Et puis, on a aussi des copropriétaires bailleurs. Et là, c'est plus difficile de faire voter en Assemblée Générale. Parce que le copropriétaire bailleur, il ne voit pas tout de suite le retour de son investissement.
Ouais, le retour de l'investissement.
Ça, c'est... Alors, nous, on le voit, parce que quand on fait des travaux dans certains immeubles, on en a fait place des fêtes, on s'est rendu compte qu'on a fait une tour et pas les deux autres. Et dans cette tour où on a fait effectivement tous ces travaux de rénovation énergétique, j'ai un décalage de 600 euros le mètre carré entre les appartements vendus dans les tours qui ont été refaites et dans celles qui n'ont pas été refaites. Donc vous voyez, on a une vraie valeur. Mmh. Et les gens, effectivement, disent « je préfère acheter là, pourtant je suis au même endroit, il y a 3 mètres d'écart ». Bien évidemment, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que globalement, il se rend compte qu'en hiver, on consomme moins, mais en été, il y a une protection avec ces parties de volets roulants et de
on habite mieux finalement.
Et on habite mieux et le confort est plus agréable.
Ouais.
Mais la difficulté, c'est aussi le financement de tout ça.
Ouais. Alors on va y venir. Pourquoi ? Juste, je voulais faire intervenir Bertrand Perrault juste pour le côté ascenseur, parce qu'on a cette notion, c'est assez simple. Est-ce qu'on a le même. Parce que vous, la problématique, c'est vraiment l'entretien, et on sait que c'est vital d'ailleurs, dès que l'ascenseur ne marche plus. Ça sonne chez les syndics, évidemment.
C'est
quoi le temps d'utilisation? On a, parce qu'on voit des ascenseurs, évidemment, surtout dans Paris, très anciens. Mm-hmm. On en voit évidemment des très belles rénovations. Mais c'est quoi la durée d'un ascenseur?
Alors, il n'y a pas de durée type. Et pourquoi il n'y a pas de durée type? Pour deux raisons. La première, c'est tout dépend de la technologie de l'ascenseur initial. C'est-à-dire qu'en fonction de la technologie qui a été faite pour monter le premier ascenseur, ça peut être... hyper qualitatif comme pas du tout qualitatif. Donc ça a un impact déjà sur la durée de l'ascenseur. Le deuxième élément, c'est que ça dépend aussi du trafic de l'ascenseur. C'est comme un véhicule, comme une voiture. Plus on l'utilise, plus ça s'use. Et donc forcément, il y a aussi un impact sur la durée de vie de l'ascenseur. Troisième élément, c'est la qualité de la maintenance. C'est-à-dire qu'un ascenseur, même s'il est de bonne facture initiale, s'il est mal entretenu... parce que ça reste un ensemble électromécanique, s'il est mal entretenu, forcément, ça diminue très fortement sa durée de vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de durée de vie d'un ascenseur, parce qu'il y a tous ces trois paramètres qui rentrent en ligne de compte, qui participent à faire en sorte... Nous, on a aujourd'hui dans notre parc des ascenseurs qui, alors, effectivement, ont bénéficié de programmes de rénovation, notamment au titre de toutes les lois... notamment de la dernière loi urbanisme et habitat. Mais au-delà de ça, c'est parce que c'est l'entretien qui permet d'allonger la durée de vie de l'ascenseur. Donc tous ces paramètres viennent se conjuguer pour faire en sorte que dans notre parc, on a des ascenseurs qui aujourd'hui ont 80 années d'ancienneté.
Donc comme sa voiture, un bon entretien, contrôle technique à jour, maintenance, hyper important à vérifier bien dans son contrat.
Exactement.
On revient sur la rénovation avec cette dernière partie, effectivement, vous en parliez, Olivier Safar, financement. C'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre.
Et c'est un vrai problème aujourd'hui.
Et alors pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce qu'on a l'impression justement que les pouvoirs publics se sont emparés de la question. Il y a plusieurs milliards qui sont mis sur la table, qui vont être distribués par l'ANA, etc. etc. Comment ça se fait aujourd'hui que ça bloque encore? Qu'est-ce qui manque pour fluidifier le parcours?
Alors, aujourd'hui, on a des aides et des subventions, on est très content. Ma prime rénov est modifiée pour le 2024. On améliore les choses, c'est très bien. Merci au gouvernement. En revanche, de l'autre côté, au niveau bancaire, on est accompagné que par deux banques. Je ne vais pas dire les choses. Aujourd'hui, j'ai d'un côté la Caisse d'épargne Île-de-France et de l'autre côté Domofinance, qui est la filiale de BNP et d'EDF. Je n'en ai aucune autre qui vient travailler pour aider les copropriétés à financer les travaux. Les autres ne veulent pas venir, d'abord parce que, un, ils ne savent pas faire, deux, ils ne sont pas aidés, parce que bien évidemment, c'est très compliqué de monter un crédit de copropriété. Imaginez une copropriété où vous avez 100 copropriétaires, vous votez 2 millions d'euros de travaux, la quote-part de chacun, ils ont le droit de faire, on fait voter le recours à un prêt collectif individuel. Chacun doit remplir sa fiche pour dire s'il veut ou pas bénéficier du crédit. Tout ceci se monte aujourd'hui à la main. On n'a pas digitalisé tout ça. On le demande depuis plus de 5 ans. La Caisse d'épargne Île-de-France est en train de le faire pour qu'on puisse arriver à digitaliser. Aujourd'hui, on ne digitalise que la signature du syndic. Une fois que tout le monde a rempli le dossier, moi, je peux signer en ligne directement. Mais le boulot, c'est tout le montage du dossier qui est très long. Oui, on ça, a appris, c'est un crédit.
On a
mais j'ai trois
disait,
crédits à monter.
Alors justement, on va y revenir, mais une syndic nous disait tout à l'heure, effectivement, sur l'éco-PTZ qui vient d'être voté, s'il y a 10 copropriétaires dans une, il faut faire 10 dossiers.
Oui.
Donc ça paraît casse-cœur.
C'est une galère. Bah, ouais. Pourquoi ? Parce que c'est de l'individuel. Et qu'à chaque fois, il faut vérifier qui est propriétaire.
Oui.
Si c'est monsieur et madame, demander l'attestation de monsieur et madame. Ensuite, de regarder effectivement s'ils ne sont pas interdits bancaires, s'ils sont à jour de leur charge de copropriété, parce que s'ils ne sont pas à jour, ils ne sont pas éligibles au crédit. Ensuite, effectivement, on regarde leur
ça
dossier.
Ça va bloquer, Olivier, pour les autres, dans ces cas-là, s'il y a des gens mauvais payeurs, ça bloque pour tout le monde ou
ça bloque pas pour tout le monde, ça bloque pour le copropriétaire qui n'est pas à jour, il n'est pas éligible au crédit, point. On l'enlève. Mais la difficulté, c'est d'arriver à prendre tous les dossiers, à les ajouter. Et c'est une fois qu'on a tous les dossiers et que tout est validé, qu'on peut émettre le crédit en global.
D'accord.
C'est-à-dire s'il nous manque un papier d'une personne, il nous faut bien évidemment leur RIB, IBAN, bien évidemment, qui signe le bordereau de prélèvement sur le côté. Si c'est propriétaire, monsieur et madame, et que j'ai le compte que de monsieur ou que de madame, ça colle pas,
ouais.
Parce qu'il faut une attestation comme quoi ils autorisent que ce soit que le compte de monsieur ou que le compte de madame. Si c'est un compte joint, mais que l'appartement n'appartient qu'à monsieur, c'est l'inverse. Donc vous retrouvez à chaque fois sur des difficultés pour le montage. Ça, c'est le montage une fois. Ensuite, vous avez le montage du dossier pour les subventions et les aides. Vous savez qu'on a le droit aux aides et aux subventions, on dépose des dossiers, on a une notification de la subvention ou de l'aide. La plupart du temps, on a le droit à 20% d'avance sur ces aides, ou 30% dans certains cas, mais en moyenne 20%. Et le reste, les 80%, ne sont versés qu'une fois que les travaux ont été réalisés en totalité et payés en totalité. Ça veut dire que si vous voulez y arriver, il faut monter un deuxième crédit, que l'on appelle un crédit court terme, crédit relais, qui est effectivement à monter par le syndic pour obtenir l'argent des subventions qui sera remboursé une fois que les travaux seront réalisés et qu'on aura les subventions. Et vous avez le troisième crédit qui est l'éco-PTZ, individuel ou collectif, qui est à monter, alors parfois les deux, parfois un, mais bien évidemment à chaque fois beaucoup de choses à monter.
Tout cela avec un peu plus de mayonnaise avec les conditions d'octroi qui, ces derniers mois, ont été extrêmement plus compliquées que dans les années précédentes.
Voilà. Et les taux qui ont augmenté. La garantie obligatoire de non-solidarité des copropriétaires. La difficulté, c'est qu'on est en copropriété. En copropriété, c'est un jeu où tout le monde est responsable de tout le monde.
Oui.
C'est-à-dire, si un copropriétaire ne paye pas, ce sont les autres qui vont payer
c'est
à sa place.
Ouais, c'est...
Et la difficulté aujourd'hui, c'est que quand on monte un crédit collectif, c'est d'avoir une garantie qui assurantielle, qui vient effectivement s'il y en a un qui ne paye pas, pour que ce ne soit pas les autres qui payent à sa place. Et ça, c'est aujourd'hui financé par un opérateur assurance, qui est le groupe BPCE, qui est la maison mère de la Caisse d'épargne Île-de-France, qui propose cette garantie. Et cette assurance, bien évidemment, elle vaut 0,7, 0,8, 0,9. Elle vaut
très cher.
Parce que c'est une vraie assurance qui n'est pas une assurance uniquement d'essais multirisque habituel.
Ouais, ça. Et puis sur un vrai risque, effectivement, de,
voilà.
Malheureusement,
de défaillance.
On y arrive quand même, Olivier, parce que vous avez cité une avalanche de contraintes.
Bon, on sent bien,
la complexité du système. C'est vrai qu'on a des têtes pensantes parfois qui, sur le papier, c'est bien, et après, dans les faits, c'est un peu compliqué.
Ils pensent très bien, mais ils ne sont pas tous copropriétaires. C'est ce que je leur ai expliqué une fois.
Bon, est-ce qu'ils vous écoutent quand même pour
quand
vous parlez de
alors,
simplification ?
Oui, ils nous écoutent. La seule chose, c'est que quand ils l'écrivent, c'est pas ce qu'on leur a dit. Ou en tout cas, c'est pas ce qu'ils ont compris. Donc, la plupart du temps, c'est de leur expliquer que globalement, oui, il faut améliorer les choses. Ils le comprennent. Ils ont compris qu'on était dans des difficultés, qu'on avait besoin de financement, de banques, de différents points. On a des projets de loi qui sont en cours là-dessus. Tant mieux. La seule chose, c'est qu'à un moment, il ne faut pas qu'on arrive à faire l'inverse de ce que l'on veut faire. C'est un point qu'on va devoir expliquer à nouveau à nos gouvernants. Attention, oui, on a besoin de banques. Oui, on a besoin d'une banque de la rénovation énergétique qui vienne permettre à toutes les banques derrière de faire leur crédit et d'avoir la garantie du paiement et de la défaillance. Mmh. C'est ce que l'on demande depuis déjà quelques années. Donc avançons là-dessus. Cette banque de la rénovation énergétique, on l'a demandé à Bercy, on l'a demandé à la Caisse des dépôts. On a organisé les choses pour que ça puisse marcher. On ne demande pas à la Caisse des dépôts de faire le crédit pour les copropriétés. On demande de faire la banque de place qui va garantir les banques qui feront les crédits. Oui. Et c'est aux banques de détail de nous faire les crédits pour les copropriétés.
Un peu comme le prêt garanti par l'État qu'on avait vu.
Comme le BGE. Voilà.
Ça marchait très bien. Les banques doivent faire un rôle de distribution avec une garantie étatique.
Voilà.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas un dossier pour 2024 ? En tout cas, la proposition est sur la
table. On l'espère.
Ils vous écoutent Radio Immo.
Non, ils nous écoutent, ça c'est sûr, mais ils ne nous entendent pas toujours comme vous.
Et voilà, c'est ça.
Une grande différence.
Bon, voilà, on a fait un petit peu dégrossi le sujet, cette rénovation des copropriétés. Peut-être un peu kafkaïenne pour l'instant, un peu trop compliqué.
Non, ça s'améliore.
Mais
ça
s'améliore. On voit d'amélioration.
Ça va dans le sens.
Et c'est tant mieux. Et en tout cas, on a des grandes voix qui portent ces projets d'amélioration et de simplification. Un grand merci à nos trois invités, Olivier Sattefard, UNIS, Bertrand Perroux, Réau Combaligier, Anne Coquet, Union des syndicats des grandes copropriétés. À très bientôt.
Merci à vous.
Merci Fabrice.
Merci Fabrice. À très bientôt. Au revoir.
Le Salon de la copropriété et de l'habitat, les 8 et 9 novembre 2023, à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Axéo et Drieux Combaluzier sur Radio Immo.